qui s'appelle Personne et Actes. Alors c'est un peu le résumé, enfin je dirais le fruit de ces cours. Je dirais c'est le avec amour et responsabilité, mais c'est surtout cet ouvrage-là dans lequel il y a, je dirais, sa recherche philosophique va le plus loin. Alors pour vous donner un peu l'intention du livre, je vais vous lire un petit bout de l'introduction pour comprendre un peu quel est son souci. La première question qui a surgi dans l'esprit de celui qui étudia alors saint Thomas, certainement un bien pauvre étudiant, fut celle-ci. Quel est le rapport entre l'acte interprété comme actus humanus par l'éthique traditionnelle et l'acte comme expérience? Cette question et d'autres semblables m'ont conduit graduellement à une formulation plus synthétique dans la forme de la présente étude « Personne et acte ». Un effort personnel a été entrepris pour atteindre cette réalité qui est l'homme-personne vu à travers ses actes. Donc vous voyez, on a là toute la recherche du Saint-Père qui va être d'avoir une recherche propre qui part de l'expérience, mais à la fois en dialoguant en permanence, vous voyez, avec ce que lui a donné ce qu'il appelle la philosophie traditionnelle, qui est au fond l'enseignement thomiste qu'il a reçu. J'ai de fait essayé d'affronter directement les questions majeures concernant la vie, la nature et l'existence de l'être humain, avec ses limites mais aussi avec ses privilèges, telles que ces questions se présentent à l'homme qui lutte pour survivre tout en maintenant la dignité de l'être humain. L'homme qui se fixe à lui-même des buts et lutte pour les réaliser et qui est déchiré entre sa condition trop limitée et ses plus hautes aspirations à se poser lui-même comme libre. Donc vous voyez, là on voit tout de suite et on verra que le souci du Saint-Père, c'est de partir de l'homme, je dirais, dans son expérience d'aujourd'hui. Et au fond, ce sera toujours un peu le problème. Il ne reproche pas à saint Thomas, mais je dirais il reproche un peu à l'enseignement qu'on lui a donné de lui présenter un homme qui est désincarné, qui n'est pas lié à l'expérience. Alors, étant admise la relation de l'auteur avec la pensée aristotélicienne traditionnelle, donc ça c'est le thomisme, c'est cependant l'œuvre de Max Scheler qui a eu la plus grande influence sur sa réflexion. C'est lui qui dit ça. Dans l'ensemble de ma conception de la personne, envisagée à travers les mécanismes des systèmes d'activité et leurs variations, telle qu'elle est présentée ici, on pourra de fait reconnaître le fondement schellérien étudié dans mes ouvrages précédents. Mais de fait, en dépit des efforts fondamentaux chez les riens, en la matière, généralement phénoménologique, qui contribue à la connaissance de l'homme complet, cette unité, son fondement aussi bien que sa manifestation primordiale, manque toujours dans la conception philosophique actuelle de l'homme. Alors que dans la pensée aristotélicienne traditionnelle, c'était la conception même de l'acte humain qui était regardée comme la manifestation de l'unité de l'homme, aussi bien que comme sa source. Donc au fond, c'est clair que, je dirais, il veut ajouter à Max Scheler, vous voyez, la richesse de la pensée aristotélicienne, dans la même ligne. Il semble donc qu'en introduisant ici cette approche de l'homme à travers l'action, nous pouvons trouver les aperçus et intuitions nécessaires sur l'unité de l'être humain. Et puis, il y a une autre petite chose. Voilà. Il dit aussi dans le même ouvrage, dans toute cette étude, nous ne nous proposons pas d'analyser la théorie traditionnelle, mais seulement d'approcher autant que possible ces éléments et ces problèmes essentiels. Les réflexions menées jusqu'à présent disent sans doute assez notre effort pour repenser la réalité humaine dans son dynamisme comme réalité de la personne et de l'acte. Bien que la compréhension de cette réalité soit déjà parfaite à sa manière dans l'anthropologie philosophique traditionnelle. Vous voyez, donc d'une part, il dit que c'est parfait, et puis à la fois il ajoute, il nous faut simplement constater que la conception léguée par l'histoire présuppose plutôt l'homme-personne comme source de l'acte, tandis que dans notre ligne de recherche, il s'agit davantage de mettre au jour ce que présuppose la conception de l'actus humanus. L'acte, en effet, est en même temps source de connaissance de la personne. Donc au lieu de présupposer que la personne est source de ses actes et d'étudier l'acte, il veut découvrir la personne à travers ses actes. Encore une fois, dans la présente étude, où nous tentons d'avoir devant les yeux la personne dans toute sa spécificité dynamique, nous ne nous engageons pas sur la voie traditionnelle de la distribution des diverses facultés en l'homme. Nous la considérerons ici comme bien connue et largement explorée. Par contre, nous suivrons l'intuition fondamentale de la personne telle qu'elle se révèle dans et par l'acte. Alors, maintenant je vais vous présenter un peu le plan de l'ouvrage. Alors donc au début, il précise exactement son point de vue. Donc il ne veut pas étudier, vous voyez, l'acte de la personne comme quelque chose de séparé d'elle, ni même comme une simple manifestation de la personne, parce que dire que c'est une manifestation, c'est déjà séparer l'acte de la personne. Mais il veut étudier la personne dans son acte. C'est pour ça qu'il dit qu'il part des faits, donc de l'expérience, des faits, l'homme agit. Il appelle ça comme ça. Il part de ce qu'il appelle les faits, l'homme agit. Une manière de dire qu'il part de l'expérience de l'action. Et qu'il abstrait de l'expérience le point de vue de l'action. Donc il veut étudier la personne à travers son acte. Pour saisir la personne, non pas comme une res, donc vous voyez, on retrouve le souci de Max Scheler, il ne veut pas regarder la personne comme une res, regarder de l'extérieur, mais à l'intérieur même de l'expérience. Alors, dans un premier temps, il étudie la conscience et l'efficience. Alors, c'est important parce qu'on va voir qu'il part de la conscience comme tous les phénoménologues, mais tout de suite, il dépasse la conscience. Il dit que la conscience manifeste l'unité de la personne à son acte. Et elle renvoie à la connaissance de soi. Vous voyez, il souligne qu'au fond, je n'ai aucune expérience de mes actes en dehors de la conscience. Toutes mes expériences de mes actes sont dans la conscience. Et c'est dans la conscience que je saisis l'unité de moi-même avec mon acte. Mais à la fois, et c'est ça qui est intéressant, il dit la conscience n'est pas première, elle renvoie à la connaissance de soi. Il dit qu'elle renvoie au « je », « je », qui permet d'éprouver les actes comme mes actes. La conscience, c'est ce qui forme le vécu. Vous voyez, mais alors il précise bien qu'il différencie ce que ne font pas les phénoménologues, et c'est là la grande différence, la connaissance et la conscience. La conscience est le milieu dans lequel se déroule l'expérience et dans lequel se saisit la personne. Et puis, je dirais, la conscience est le lieu où, au fond, il y a une unité entre ce que je vis et moi-même. Alors, vous voyez, il analyse les cas où, il y a une distorsion entre mes actes et puis la conscience que j'en ai. Vous voyez, tous les problèmes psychologiques qui viennent de là. Et il reconnaît, je dirais, alors ça il ne l'explicite pas, hein, mais ça apparaît de manière évidente dans tout son ouvrage, le lien de l'intelligence à la réalité. Il existe, vous voyez, il n'y a pas du tout comme dans la phénoménologie un point d'interrogation par rapport à l'existence de la réalité. Vous voyez, elle est pas mis, c'est pas mis, le jugement d'existence n'est absolument pas mis entre parenthèses. La seule chose qui est mise entre parenthèses, c'est, je dirais, une vision de la personne, vous voyez, comme quelque chose vu de l'extérieur. Donc ça, c'est pour la conscience, ensuite pour l'efficience. Alors c'est là qu'il développe tout un point de vue, je dirais, de philosophie du vivant, où il étudie la personne comme cause efficiente, comme source de l'acte. Et il découvre que la personne est ce qui fait la synthèse entre l'efficience et la subjectivité, du point de vue vital, hein.
mais à la fois, il dit qu'elle n'est pas simplement un sujet de l'action, elle est l'auteur de l'action. Et plus que ça, elle est quelqu'un. Vous voyez, il emploie plusieurs fois cette expression. La personne humaine est quelqu'un au-delà de l'action. Vous voyez, il différencie les actes qui se passent en nous, ce qui se passe en nous sans qu'on en soit les auteurs. Vous voyez, que je ne sais pas trop quoi, qu'on se mette à rougir ou qu'on se mette à suer à grosses gouttes. Ça se passe en nous. Et il étudie tout un nombre de phénomènes comme ça où on est ému au-delà de ce qu'on peut contrôler. Alors que dans l'acte, la personne est auteur de son acte. Bien qu'il y ait une participation de la puissance vitale, vous voyez, comme dans les phénomènes d'émotivité. Alors il a aussi tout un développement sur la nature de la personne. Vous voyez, il étudie la nature par rapport à l'efficience vitale. Et il dit que l'étude sur la nature et sur l'essai est présupposée à l'analyse de l'acte. Et surtout, il est présupposé à l'acte. Vous voyez, la nature est comme le fondement radical de l'activité de l'homme. Mais la nature n'est pas personnelle. Alors on pourrait presque dire, là j'extrapole un peu, que la nature est en puissance à la personne. Vous voyez, ce n'est pas la nature qui détermine l'acte. C'est la personne qui détermine l'acte. Même du point de vue de l'efficience. Alors c'est intéressant aussi là, parce qu'il n'oppose pas de manière radicale la nature et la personne. Et il montre que la diversité des puissances vitales est à comprendre comme diversité de la nature. Mais l'unité de la vie, elle vient de la personne. Donc vous voyez, au fond, il étudie comment est-ce que l'acte, d'une part, il a pour milieu la conscience, et d'autre part, et j'irais, il a comme source du côté de l'efficience tout le dynamisme vital. Donc vous voyez, on dirait presque nous qu'il étudie l'opération du point de vue de la philosophie du vivant. Alors, le deuxième volet de son analyse, c'est l'étude de la transcendance, qui est le centre du livre, qui est l'étude de la transcendance de la personne dans son acte. C'est-à-dire qu'il étudie ce qu'il appelle le propre de la structure de l'acte de la personne. Alors, pour étudier, vous voyez, c'est au fond d'essayer de comprendre comment est-ce que c'est dans l'acte de la personne que il y a un dépassement. La personne se dépasse elle-même. Alors que du côté de l'efficience, au fond, vous voyez, ce n'est pas du côté de l'efficience qu'il va pouvoir trouver comment est-ce que la personne se dépasse elle-même. Parce que la personne du côté de l'efficience, elle est plus une synthèse, vous voyez, elle n'est pas un dépassement. Alors là, pour étudier ça, il part de ce qu'il appelle l'autodétermination de la personne. Ce qu'il appelle aussi l'autopossession de la personne. Alors il dit que l'autodétermination, c'est le rapport de la personne à la volonté, qui apparaît dans le fait « je veux ». Vous voyez, quand on dit « je veux », on s'autodétermine à l'action. Vous voyez, c'est la même chose, il ne dit pas « la volonté », il dit « je veux » pour bien montrer qu'il veut partir de l'expérience que j'ai de ma volonté, et pas de la volonté prise comme une capacité abstraite. Alors il dit qu'elle est valable cette analyse et que d'une certaine manière elle est parfaite, mais lui il veut partir de l'expérience de ma volonté. Et il dit que c'est dans cette autodétermination qu'apparaît la liberté. Alors vous voyez, c'est très intéressant parce que dans la ligne de l'analyse qu'il a faite au niveau de la philosophie du vivant, il découvre la détermination de la volonté et à la fois il précise que la volonté, tout en se déterminant elle-même, tout en déterminant la personne, implique aussi une objectivité. Une lucidité, ce qu'il appelle une objectivation. Et il souligne très fort que, vous voyez, c'est dans cet acte où on dit « je veux », je dirais c'est dans l'acte de la volonté qu'apparaît vraiment le dépassement de la personne par rapport à la nature. Oui. C'est là vraiment qu'on voit que la personne humaine dépasse complètement le point de vue de la nature. Parce que cet acte de volonté, il ne dépend pas, lui, de la nature. Alors c'est ce qu'il dit, l'acte libre dépend radicalement du « je ». Et c'est lui qui révèle la transcendance de la personne dans son acte. C'est ce que révèle la décision. Vous voyez, dans la décision, dans l'acte de la volonté, l'homme se dépasse par rapport à sa nature et se révèle dans ce dépassement. Alors c'est là que c'est très intéressant, c'est qu'il montre à la fois, c'est l'autre versant, je dirais, de cet acte de volonté, c'est que la décision caractérise l'engagement personnel vers le bien. Vous voyez, c'est là qu'il y a comme un retournement. On pourrait croire aussi que là, il est, je dirais, qu'il est phénoménologue, c'est-à-dire qu'il va tout prendre du côté de la volonté et dit non, la volonté, elle est une réponse à quelque chose d'objectif. Il dit qu'elle est une libre réponse vers la valeur et pour la valeur. Donc il dit que la décision volontaire renvoie à une vérité, ce qu'il appelle une vérité concernant le bien. Et il va même jusqu'à dire que cet acte de décision est subordonné à la vérité. Et donc le fondement ultime d'un acte vrai, plus exactement d'un acte libre et d'un acte dans lequel la personne se dépasse elle-même, c'est, je dirais, cette obéissance à la vérité. Au fond, c'est la subordination de l'acte à la vérité qui est le fondement de l'autodépendance et de la liberté. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que nous, on dira que on voit à la fois dans l'acte humain la place de la volonté par rapport au bien, voyez, et puis l'accomplissement de soi dans l'acte, et puis la place de l'intelligence, puisqu'il y a la vérité. Alors c'est ce qu'il dit, là je le cite, « La transcendance cognitive conditionne la transcendance propre de la volonté dans l'acte. » Donc ça veut dire que la connaissance et la reconnaissance que j'ai de la vérité conditionnent, je dirais, la vérité de mon acte. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, il ne prend pas c'est ce qu'il appelle la transcendance cognitive, ce n'est pas un raisonnement discursif. Vous voyez, c'est pour ça que ce n'est pas type kantien. Ce n'est pas « je dois », ce n'est pas une espèce de d'élaboration a priori, c'est immédiat. Alors, là, je vais vous lire un petit bout. C'est un peu compliqué ce que je vous explique, mais c'est plus clair que dans le livre. Parce que c'est pas facile. Alors, je trahis peut-être un peu en le simplifiant, mais je crois que c'est le seul moyen de... Donc là, je vous cite. La transcendance de la personne dans son acception métaphysique n'est pas en effet une simple abstraction. Nous constatons par l'expérience que la vie spirituelle de l'homme se concentre et s'exalte autour du vrai, du bien et du beau, ce qu'il appelle les transcendentaux. On peut donc parler d'une certaine expérience des transcendentaux qui va de pair avec l'expérience de la transcendance personnelle. Alors vous voyez, là, il ne faut pas prendre les transcendentaux dans le sens où on les comprend nous. Vous voyez, les transcendentaux, c'est l'expérience du bien dans toute sa... Vous voyez, ce qu'il appelle l'expérience du transcendantal bien, c'est l'expérience réelle du bien dans toute sa force. Donc c'est lié à l'expérience pour lui, les transcendentaux. Hein, alors que pour nous, c'est pas exactement... C'est un problème qui n'est pas tout à fait immédiatement lié à l'expérience. Vous voyez, c'est une manière de formaliser ce que j'atteins par mon acte de volonté. Alors il dit, celui qui agit est personne... Il s'authentifie comme quelqu'un, le qualificatif quelqu'un revient à l'homme non seulement comme résultat de l'expérience de la transcendance, mais sur fond d'une analyse de l'être. Vous voyez, c'est le aliquid qu'on a vu. Néanmoins, l'analyse de l'être, à laquelle dans le cas de l'homme nous devons le concept métaphysique de personne, résulte également de l'expérience de la transcendance, et c'est en elle que nous trouverons l'essence qui nous est fondamentale. Donc vous voyez, il a le souci, on reviendra dessus, mais il a le souci de rejoindre par son analyse, vous voyez, ce qui est atteint par la métaphysique traditionnelle comme l'acte, non seulement, mais comme aliquid, vous voyez, comme nous, ce qu'on a vu sur la dignité et l'incommunicabilité de la personne. Alors, il parle à ce moment-là de la transcendance de la personne comme la transgression de soi dans la vérité. Vous voyez, j'ai envie de dire, si on veut le traduire, hein, on pourrait presque dire, vous voyez, que c'est l'acte de l'amour lié à la contemplation. Voyez, si on pousse vraiment jusqu'au bout. Hein. Parce que la transgression de soi dans la vérité, c'est un état extatique de la connaissance et de l'amour. Ou plus exactement, c'est un état extatique de la volonté dans la vérité. Donc après avoir analysé la transcendance, il analyse l'accomplissement, ce qu'il appelle l'accomplissement. Donc vous voyez, après avoir essayé de saisir la personne dans sa fine pointe, il regarde, je dirais, quelle est la répercussion, vous voyez, comment est-ce que cet acte de la personne, c'est ce qui met la personne dans un état de perfection. Alors il dit que c'est la même chose, l'acte traditionnel, l'acte humain tel qu'il a été étudié de manière traditionnelle, correspond à l'accomplissement extérieur, transitif. C'est-à-dire que je me repose dans la réalité. Mais lui, ce qu'il veut étudier là, c'est l'accomplissement intérieur. Vous voyez, c'est comment la personne atteint son sommet. Et il dit que cet accomplissement intérieur, cet accomplissement de soi, il est réalisé par l'acte. Et par la bonté morale de l'acte. Et il dit que cet accomplissement, il est dans l'obligation par rapport à la vérité. Alors là aussi, c'est intéressant, par rapport à Kant, il dit que l'obligation par rapport à la vérité, elle ne naît pas de l'extérieur. Vous voyez, pour Kant, au fond, la manière dont le devoir s'impose à moi répond sans doute à ce qu'il y a de plus profond en moi, mais il ne répond absolument pas à ce que je découvre dans l'expérience. Vous voyez, et même, c'est juste l'inverse. Il faut que je choisisse les choses les plus dures possibles pour être sûr que je suis vraiment dans le devoir pur. Et là, le Saint-Père dit que l'obligation par rapport à la vérité, elle naît de l'intérieur, dans la découverte du bien pour moi. Et elle aboutit à l'engagement et à la responsabilité et à la félicité, donc le bonheur. Mais il préfère félicité, vous voyez, parce que bonheur, c'est objectif. Vous voyez ce que je veux dire, c'est la félicité, c'est par rapport à la personne. La félicité, c'est le bonheur de celui qui vit. Alors, ensuite, il dit que la transcendance révèle l'inséparabilité entre la spiritualité et la personne, entre l'esprit et l'homme, dans la forme concrète de l'existence. Donc, vous voyez, la même chose, il montre qu'au fond, la personne qui se dépasse dans son acte révèle qu'elle est esprit dans cet acte. Et donc, au fond, c'est dans l'acte de la personne que l'esprit se révèle. Alors, il dit aussi que pour aller jusqu'au bout de cette analyse, il faut renvoyer à l'analyse de l'âme et du corps dans la philosophie traditionnelle. Alors ça c'est le chapitre central du livre sur lequel on va revenir. Ensuite, dans une dernière partie, il étudie ce qu'il appelle l'intégration de la personne dans l'acte. C'est le complément de la transcendance. Vous voyez, c'est de voir au fond comment est-ce que toute la personne, vous voyez, comment est-ce que cette transcendance de la volonté, elle ordonne toute la personne. Alors, elle ordonne le corps, ce qu'il appelle soma. Il n'appelle pas corps, vous voyez, il appelle soma. Là encore, pour bien montrer que c'est par rapport à mon expérience, la manière dont je vis le corps, c'est le soma. Et le corps, c'est vu de l'extérieur. Lui, non, il dit, dans l'expérience de la personne qui agit, il y a une dimension qui est une dimension somatique, qui est effectivement liée au corps. Nous, on pourrait dire le point de vue végétatif. Et puis, il y a une dimension psychique, qui n'est pas l'âme, hein, là, pour le coup, mais qui est toute la dimension de la vie sensible et affective. Alors, il dit que cette transcendance, elle permet d'intégrer le corps, donc ce qu'il appelle le soma, toute la vie végétative, et il permet d'intégrer même la vie végétative dans son dynamisme propre. Il permet, je dirais, d'assumer tout le conditionnement végétatif. Vous voyez, il a étudié avant, dans la première partie, la philosophie du vivant, où il a décomposé les niveaux, où il a dit qu'il y avait la nature, et puis il y a l'efficience vitale par rapport au « je », et tout ça, s'est dépassé par l'acte de la volonté. Maintenant, vous voyez, il prend plus, j'ai envie de dire, une analyse selon les niveaux de connaissance, comme vous voyez, selon les niveaux de vie. Là, il essaie de voir l'unité entre ces niveaux de vie. de voir qu'au fond, l'unité du vivant, elle existe de soi, mais cette unité ne peut être respectée, donc il ne peut y avoir un ordre dans mon opération que par la transcendance de mon acte. Alors il dit, c'est la même chose par rapport au psychisme, notamment par rapport à l'émotivité. Alors c'est là qu'il développe qu'au fond, toute l'acquisition des vertus, des habitus, c'est au niveau du psychisme. Oui, on dirait nous au niveau de la vie sensible et de la vie affective, des passions. Alors c'est intéressant parce qu'il dit que de la même manière que l'intelligence reconnaît la vérité des valeurs, il y a déjà quelque chose comme ça au niveau sensible. Vous voyez, on reconnaît spontanément le bien sensible. Vous voyez, donc il associe la reconnaissance du bien sensible, qui est une reconnaissance immédiate, à la reconnaissance du bien par la volonté. Et puis dans sa conclusion, il ouvre sur une réflexion sur la personne par rapport à la coopération, où il montre que dans toute communauté, il faut respecter le droit de la personne à s'accomplir. Vous voyez, ce qui va déterminer, l'ordre d'une communauté, c'est que chaque personne puisse atteindre son accomplissement. Vous voyez, il parlera de la valeur, il faut respecter la valeur personnaliste de l'acte. Alors, je ne vous développe pas toutes les parties sur la philosophie du vivant. Donc oui, la dernière partie, c'est ce qu'il appelle la participation. Donc nous, c'est là qu'on a l'étude de la coopération. C'est embryonnaire. Hein. Il essaye de montrer comment est-ce qu'il y a deux tendances, l'individualisme et le totalitarisme, et qu'au fond, ce sont deux excès. Alors il dit, ayant découvert que la communauté d'agir se fonde et est toujours conditionnée par une communauté d'être, et que le bien commun est avant tout principe de participation. Alors, on précise deux attitudes authentiques, la solidarité et l'opposition. Bon, mais ça, je le développerai. Donc, la solidarité qui renvoie au prochain, et puis l'opposition qui est le droit, au fond, à avoir un droit de réponse à l'action du gouvernement. Enfin, tout le problème polonais est très présent, là, dans le dernier chapitre. Alors, ce que je voudrais maintenant, c'est essayer de développer, vous voyez, de reprendre la structure du livre pour essayer de comprendre quel est son souci. Et puis après ça, on pourra lire un ou deux passages, vous voyez, où on saisit bien son intention. Alors, dans la première partie, donc d'abord, il étudie la conscience. Hein. Donc il part du fait, l'homme agit. Il étudie la conscience comme le milieu. Vous voyez, je dirais que mon expérience soit consciente, c'est le garant que ça soit vraiment mon expérience. Et que ça ne soit pas simplement, vous voyez, de jouer logiquement avec ce qu'on m'a enseigné. Vous voyez, c'est un peu comme ça, je crois qu'il le montre. La conscience, elle est le garant de l'authenticité de l'expérience. Je ne peux pas faire l'expérience de quelque chose dont je n'ai pas conscience. Voilà. Alors ensuite, il étudie le dynamisme vital. L'acte, donc ce qu'on pourrait appeler l'acte du vivant, par rapport à la potentialité de la nature. C'est l'efficience, le point de vue de l'efficience. Ensuite, bon, et puis parallèlement à ça, donc il étudie la nature, la manière dont la nature est assumée par le vivant. Ensuite, il étudie l'acte de la volonté par rapport à la vie. Ça, c'est la première partie sur le vivant. Ensuite, il étudie, donc on l'a vu, la transcendance. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez remarqué que d'une part, il y a un dépassement de soi dans la vérité. Et à la fois, il y a ce qu'il appelle un accomplissement. Et le dépassement de soi dans la vérité, il est lié à l'acte de... Alors, c'est vrai qu'il parle pas, il parle pas de l'intelligence, vous voyez, parce que pour lui, c'est la présence de la vérité dans l'acte de la volonté. Vous voyez, parce que parler de l'intelligence, c'est encore, ça serait plus immédiatement lié à l'expérience. Mais je dirais, on peut quand même dire qu'il y a un acte de l'intelligence qui est présent. Par rapport à la vérité, par rapport à ce qu'il appelle la valeur. Et la valeur, c'est à l'avantage d'être à la fois du côté de la vérité et du côté de la bonté. C'est l'avantage des valeurs. C'est que c'est à la fois une cause exemplaire, à la fois du côté de la vérité et de la bonté. Et puis ensuite, j'irai, il étudie tout ce que nous, on appellerait le pos, le conditionnement. Alors, vous voyez, ce que je crois intéressant, c'est que ce qu'il appelle le dépassement de soi dans la vérité, il recherche, vous voyez, ce que nous, on appellerait l'énergeia. Vous voyez, le point de vue du dépassement. Alors que ça, c'est beaucoup plus l'accomplissement, c'est beaucoup plus l'étude de l'entelekeia. Et ça, c'est très présent. Hein. Alors oui, je développerai aussi quelque chose par rapport à la transcendance, elle est à ce niveau-là. Vous voyez, ça, c'est presque, je dirais, c'est le fruit de la transcendance. Ça. Et puis, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est de remarquer qu'il étudie certaines modalités de l'acte. Je crois que c'est surtout ça qui est intéressant. De voir qu'au fond, son souci... Vous voyez, et de saisir la personne. Bon, c'est bien le sujet du livre, c'est de saisir la personne autour de l'acte. Mais quand il dit l'acte, c'est l'acte dans toute sa plénitude, c'est-à-dire l'acte au niveau vital, l'acte au niveau moral, éthique. Parce qu'il dit bien qu'il n'est pas en éthique. Parce que l'éthique, vous voyez, l'éthique, c'est pas l'étude de la personne, l'éthique. L'éthique, c'est l'étude des actes de la personne pour lui. Vous voyez, donc il y a le bien, il y a l'acte et il y a la personne. Et l'étude de l'éthique, elle se situe à ce niveau-là. Vous voyez, c'est la valeur des actes, l'éthique. Ce n'est pas l'expérience de la personne du bien, l'éthique, pour lui. Et ce qu'il étudie, alors que ce qu'il étudie là, c'est l'expérience de la personne par rapport au bien, ce que nous, on appellerait l'éthique. Alors, il y a une étude de l'acte vital, de l'acte éthique. Il y a une étude de l'acte comme simple mouvement de la nature. Et puis, il y a un souci par derrière de l'acte au niveau ontologique. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que oui, et puis on pourrait même dire qu'il y a l'acte aussi par rapport à la vérité. Donc vous voyez, c'est intéressant de voir qu'il essaye au fond de synthétiser toutes les dimensions de l'acte pour chercher quelque chose. Vous voyez, je dirais que c'est une démarche qui, bon, même si elle est un peu touffue, est à quelque chose d'analogue à la recherche d'une induction. Alors surtout, ce qui est intéressant, et c'est là que je voudrais insister, c'est qu'il distingue, donc ça je ne l'ai pas souligné dans le développement, mais on peut y revenir maintenant, deux transcendances. C'est peut-être là qu'est tout le problème. Il parle de la transcendance horizontale. Donc de l'acte. Hein. Et ça, il dit, ça c'est la philosophie traditionnelle. C'est que l'homme, alors je vais vous lire un passage, l'homme a l'appétit du bien. L'homme tend vers son bien. Mais ça, c'est la transcendance horizontale. Je dirais, c'est la personne. Oui, c'est ça, c'est la personne qui tend vers son bien. Et lui, ce qu'il veut étudier, c'est la transcendance verticale. Ce qu'il appelle la transcendance verticale, c'est l'acte de la volonté, vous voyez. C'est l'acte de la personne dans la volonté qui atteint le bien. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Alors, je vais vous lire un passage là-dessus, parce que vous voyez, c'est là qu'on sent le mieux la différence entre son regard et puis celui de la philosophie traditionnelle. Alors, donc il parle de la transcendance. Ce terme philosophique demande à être ici. Je prends la transcendance parce que je crois que c'est la fine pointe de la personne. Vous voyez, c'est ça qui est le sommet. Ce terme philosophique demande à être ici quelque peu expliqué, et plus particulièrement l'application qu'il trouve en cette étude. Le terme transcendentia désigne étymologiquement le dépassement de quelques seuils ou de quelques limites. Transcendere. Ce peut être le dépassement de la limite qu'opère le sujet en direction de l'objet. Vous voyez, c'est ça. Ça, c'est le dépassement du sujet en direction de l'objet. Oui, c'est de l'extérieur. Et le dépassement de l'objet en direction, du sujet en direction de l'objet, c'est un problème qui est vu de l'extérieur. Mais quand on aime quelqu'un, on ne se regarde pas soi-même comme le sujet qui tend vers l'objet. Et l'éthique, elle n'est pas fondée sur l'analyse du sujet qui tend vers l'objet. Donc ce dépassement de la limite par le sujet s'accomplit différemment suivant qu'il s'agit d'actes de connaissance ou bien de volition. Les volitions, c'est les actes de la volonté, qui possèdent un caractère de tendance. Le dépassement de la limite qu'opère le sujet vers l'objet, autrement dit l'intentionnalité, donc ça, il identifie ça à l'intentionnalité. Et la philosophie traditionnelle, elle a parlé de l'intentionnalité de l'acte. Alors ça, c'est la meilleure, parce que normalement, c'est la phénoménologie qui étudie l'intentionnalité. Vous voyez, elle a analysé comment le sujet tendait vers son objet. Comment l'intelligence tendait vers la vérité et comment la volonté tendait vers le bien. Mais ce n'est pas elle qui nous occupe avant tout. Bien qu'elle ne soit pas, on aura encore l'occasion de le voir, absente de nos considérations. Donc, oui, il ne la rejette pas. Hein. Quand nous parlons de la transcendance de la personne dans l'acte, cette transcendance, nous la devons à l'autodétermination. C'est la transcendance à travers le fait même de la liberté, à travers le fait d'être libre dans l'action, et non pas la seule orientation intentionnelle des volitions vers l'objet qui leur est appropriée. Vous voyez, il dit même, et non par la seule orientation intentionnelle des volitions vers l'objet qui leur est appropriée, vers la valeur fin. Vous voyez, il dit, la fin est devenue une valeur, donc elle est devenue un objet pour ma volonté. Vous voyez, elle n'est plus, j'irais, elle est plus conjointe à l'acte de ma volonté. Alors, il dit en note, ce n'est pas là une transcendance vers quelque chose, une transcendance pour ainsi dire orientée que nous constaterions en même temps que nous constatons l'objet, notion de valeur ou de fin. C'est en revanche une transcendance à l'intérieur de laquelle le sujet s'affirme comme s'outrepassant lui-même et d'une certaine façon comme se surpassant. C'est là qu'il dit, Kant semble être davantage l'interprète d'une telle transcendance que ne l'est Scheler. Oui, c'est la dignité, au fond, c'est la dignité intrinsèque de la personne. Et pas sa dignité en fonction d'un objet. La transcendance de la personne, c'est pas de tendre vers le bien. Oui, même si c'est la vérité qui permet la transcendance de la personne, lui, ce qu'il veut, c'est l'étudier dans la personne. Vous voyez, c'est là qu'il y a un souci métaphysique. Il veut saisir quel est le sommet de la personne à l'intérieur de la personne, et pas en fonction d'autre chose. Alors, il dit, cette transcendance, par opposition à celle que nous avons nommée horizontale, on pourrait la définir comme verticale. Alors, je continue. Ainsi comprise comme propriété des dynamismes de la personne. La transcendance, donc vous voyez, ça veut dire que la transcendance assume tout le point de vue vital. La transcendance s'explique par comparaison avec le dynamisme de la nature. L'autodétermination introduit ici avant tout la suprématie du je propre. Alors, on peut, par analogie avec la formule « persona in actu ». Vous voyez, parce qu'il montre que ce qu'il veut étudier, ce n'est pas les actes de la personne, ce n'est pas les actes humains, c'est la personne en acte qu'il veut étudier. « Persona in actu ». Alors, il reprécise un peu plus loin par rapport à la transcendance horizontale. Les analyses que nous comptons mener encore dans le... Nous avons défini cette transcendance comme verticale, eu égard justement au fait d'être libre, à l'autodétermination et à la suprématie qui en résulte par rapport au dynamisme propre. Donc il analyse la volonté. Ce mode d'analyse de la volonté, en même temps que d'approfondissement de la structure interne de la personne, semble quelque peu différent de la méthode traditionnelle. Il semble en effet que cette dernière ait examiné plutôt la volonté selon la dimension de la transcendance horizontale. Donc, vous voyez ce que je vous disais. Elle a par exemple été envisagée et analysée par les philosophes et les psychologues comme appetitus. Vous voyez, la volonté, il dit, si je définis la volonté comme appétit tendant vers son bien, je ne sais, peux plus saisir la transcendance de la personne. Ou je saisis une transcendance de la personne qui est une transcendance horizontale, c'est-à-dire, je dirais, une transcendance extrinsèque. Elle a été, par exemple, envisagée et analysée par les philosophes et les psychologues comme appetitus. Cette analyse a mis au premier plan, non sans raison, le mouvement caractéristique de la volonté vers le bien pris comme objet ou comme fin. Oui, c'est intéressant de voir que c'est comme objet ou comme fin. Ainsi, l'essentiel de l'analyse de la volonté était l'analyse de l'intentionnalité, de ses actes intentionnels ou de ses volitions, par lequel incontestablement la volonté se manifeste et s'actualise. Il semble cependant, vous voyez, le reproche qu'il fait. Il semble cependant que, par l'analyse des seules volitions dans leurs diverses nuances et modifications, nous n'atteignons pas encore à la racine de la volonté. Vous voyez, ce n'est pas le principe, c'est la racine. Elle est en effet enracinée dans la structure même de la personne, comme nous avons essayé de le montrer ici. La seule intentionnalité des volitions et l'orientation qui se fait en elle, en direction de la valeur fin, ne détermine pas encore pleinement la volonté, ne donne pas une vue suffisante de son dynamisme propre et de sa potentialité. Mais je dirais, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la philosophie du vivant et la philosophie éthique, ça ne suffit pas pour parler de la personne. Il faut autre chose. Alors, il ne dit pas que c'est la métaphysique, bien que, je vais vous lire des passages où il dit que son souci, il est ontologique. Non. Il ne faut pas que je me perde. Alors, vous voyez, pour revenir sur la distinction entre la transcendance horizontale et verticale, j'irai jusqu'à. Non, attendez, ça c'est sur autre chose. Voilà. La conviction de ce que la conception traditionnelle de l'actus humanus, donc de l'acte humain, contenait implicitement et enveloppait, pour ainsi dire, l'aspect de la conscience que nous nous efforçons ici de dévoiler, se nourrit d'une conviction plus profonde encore, celle de la continuité, de l'homogénéité radicale de toute la philosophie concernant l'homme. Sans que soit prise en compte si elle est pratiquée à partir de ce qu'il est convenu d'appeler une philosophie de l'être ou bien à partir d'une philosophie de la conscience. Donc au fond, il veut, à travers sa propre démarche, rejoindre une philosophie de l'être. C'est ce qu'il dit un peu plus loin. Car il semble bien que dans les analyses qui précèdent, nous ayons accumulé assez d'arguments en faveur de la spiritualité de l'homme, et pas seulement au sens phénoménologique, mais de façon au moins médiate, au sens ontologique. Alors, il y a un autre passage. Voilà. De cette manière, l'expérience de l'unité de l'homme comme personne éveille simultanément le besoin de comprendre sa complexité en tant qu'être. Une telle compréhension est synonyme de connaissance jusqu'au bout ou encore jusqu'au fond. Elle est propre à la philosophie première, c'est-à-dire à la métaphysique, qui élabora, voici déjà longtemps, une théorie de l'homme en tant qu'être composée d'âme et de corps. Autrement dit, d'esprit et de matière. Particulièrement convaincant en ce domaine est l'enseignement d'Aristote qu'approfondit au Moyen-Âge saint Thomas d'Aquin. Nous n'allons pas reprendre ici leurs arguments concernant la complexité de l'homme ainsi que l'essentielle irréductibilité de l'esprit à la matière. Il n'est pas exclu que les analyses menées jusqu'à présent en cette étude et celles que nous nous proposons de faire dans les chapitres à venir reprennent à leur manière ces arguments et les éclairent à leur manière aussi sous certains aspects. Toutefois, ce sont elles sans doute qui tirent davantage profit d'eux. Ça veut dire que c'est lui qui profite de la métaphysique plus que. Il ne peut faire de doute en effet que la conception de l'homme comme personne, bien qu'elle provienne d'une intuition originaire et qu'elle se laisse développer intellectuellement dans le cadre d'un regard phénoménologique, requiert, pour sa plénitude métaphysique, une analyse portant sur l'être humain. Dans la mesure donc où l'expérience de l'unité personnelle de l'homme conduit à sa complexité, la compréhension approfondie de cette complexité permet à son tour de comprendre également en plénitude le composé humain comme une personne une et ontiquement non réitérable. Oui, ça, c'est le caractère ineffable. Voilà. Et puis, il y a une... Est-ce que j'ai le temps? Ça veut dire que j'ai 3 minutes? Oui. Alors, pour finir, vous voyez, c'est pour voir son souci. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il a communiqué à un congrès thomiste, je crois. Il est un besoin urgent de... Donc, ça, c'est... il n'était pas à ce moment-là. Il y a un besoin urgent de confronter la conception métaphysique de la personne que nous trouvons chez saint Thomas et dans la tradition thomiste avec l'expérience humaine totale. Une telle confrontation ouvrirait sans doute plus largement l'accès aux sources de la connaissance, d'où le docteur Angélique a tiré sa doctrine métaphysique. Concrètement, ça veut dire que ça permettrait de mieux comprendre Aristote. Elle révélerait aussi l'étonnante richesse contenue dans ces sources et montrerait de nouveaux moyens de les exploiter. Un autre avantage éventuel serait l'occasion de reconsidérer les éventuels points d'accord avec la pensée moderne, de même que ceux où le divorce avec elle était inévitable pour sauvegarder la vérité sur le réel. Donc vous voyez, pour finir, je dirais que, en permanence, il le dit lui-même, vous voyez, au bout de son analyse, il y a ce qu'il appelle la philosophie traditionnelle. Donc au bout de son analyse, il y a une analyse métaphysique, il y a une analyse de la philosophie du vivant, ce qui dit qu'il y a la découverte de l'âme et du corps. Et puis, il y a la saisie. Vous voyez, au niveau métaphysique, je dirais, il y a la saisie de l'acte. Parce que vous voyez, il a un souci d'associer la saisie de la personne à une saisie métaphysique. Donc, vous voyez, ce qu'on voit clairement dans son livre, c'est d'une part, bon, là, je ne l'ai pas développé, mais...